Elle le livre. Le titre à dessein est sibyllin. Il annonce, il prédit à la lettre et à plus d'un titre le mystère de la création à plus d'une. Tel sera mon propos. Non pas percer quelques secrets, lequel dès lors n'en serait pas un, mais tenter de faire toucher l'impénétrable mystère de l'écriture du livre à plus d'une. Ce titre semble faire une phrase, mais il forme un syntagme, c'est-à-dire un arrangement de mots plutôt qu'une logique. Le pronom féminin pluriel porte en court-circuit au singulier objet livre, marquant ainsi le geste pluriel de la création. Plus exactement, un geste plusieurs. Car il faut y entendre les patronymes, Lucie, René, Mathilde Schwob, Suzanne Malherbe, les pseudonymes Claude Courly, Claude Cahun, Marcel Moore, mais aussi le jeu lettré sur le pronom René, dont Claude Cahun note que, lycéenne, elle escamotait le E muet, et que cette coupure n'allait pas sans un signe vers René de Chateaubriand et les mémoires d'outre-tombe, considérées comme, je la cite, un antidote à l'historicité. Et cependant qu'elle épiloguait sur la fourche que fait l'Y de son premier prénom, de Lucie, qui remplace, selon le choix imposé par sa mère, la voyelle du féminin IE de Lucie. Sans oublier enfin le « sans nom » du nom de la ferme à Jersey, ni du « soldat sans nom » (der Soldat ohne Namen) au pseudo-anonyme, un pseudo-anonyme par lequel deux résistantes livrent aux nazis une guerre des nerfs. « Mon entreprise de folle », comme écrira plus tard Claude Cahun à Gaston Ferdière en mars 1946. Contre la barbarie, une guerre à coups de textes, de photomontages et de slogans démoralisateurs. Une guerre de lettrés, une guerre de poètes, une guerre faite à la guerre au moyen des mots. J'y reviendrai. Le geste plusieurs de la création n'est pas un collectif. C'est la foule du corps, la circulation inachevable de la foule organique dans le corps. Ce sont les potentiels de la scène des corps communicants, de leurs épiphanies. À ce titre, pas de verbe, pas « elles font » ou « elles sont » le livre, mais une immédiateté, la foudre, la survenue de la poésie, de la « pensée simultanée », comme elle dit, qui « effleure », c'est son mot, et que l'écriture doit capter, l'éclair et pas le processus ou le cheminement ou l'histoire. Vision, aveu, pari, miroitement, et par suite fragments, notes, lettres, feuilles détachées, et pas de narration ni de roman, ni d'enchaînement. Claude Cahun, dans ses écrits entre 48 et 51, désigne parfaitement cette attirance pour la page, la plage, sans empreinte ni repère temporel. Je la cite dans Feuilles détachées. En fin de compte, comme René et accent aigu, je n'ai jamais été et ne suis parfaitement à l'aise que sur cette plage nue, lavée par la marée, vierge de mes propres pas. Rien n'y enlise. L'agissante pensée simultanée l'effleure, s'y dégage du temps, de toute apparence d'effort, car l'océan, sans plus marquer ni effacer ses traces que ne le fait un rêve, attire et contrôle ses gestes, déjà ceux d'un nageur. On est frappé par la résonance de ces affirmations avec le rapport de Claude Cahun à son corps, rapport que l'écrivain, mais aussi la photographe qu'elle est, n'auront de cesse d'explorer, tournant autour de cette énigme intérieure si retranchée qui constitue le seul sujet de l'écriture, littéraire, picturale, photographique, politique. Un sujet aune, sans. On sait combien Claude Cahun tient, tout entière si j'ose dire, tient, s'abstient à ce mot. Ainsi, ce rêve du rêve, ce rêve de l'agissante et effleurante pensée, du non-enlisement, de l'intemporel et de l'impondérable corps rêvé, on ne peut pas ne pas le rapprocher de certains passages d'aveux non avenus. Je cite ce fragment au complet. Circonscrire et surprendre le miracle, que la bouderie, le renoncement, le jeûne me servent à simplifier mes alentours. Je ferme les yeux pour délimiter l'orgie. Il y a trop de tout. Je me tais. Je retiens mon haleine. Je me couche en rond. J'abandonne mes bords. Je me replie vers un centre imaginaire. Enfant déjà, je jouais ce jeu d'infirme. Ce sera plus facile à cloche-pied. Distribuer le gâteau en retranchant ma part. Si un cube n'entre pas dans ma construction, je le supprime. Un à un, je les retire tous. Ce n'est pas sans arrière-pensée. Je me fais raser les cheveux, arracher les dents, les seins. Tout ce qui gêne ou impatiente mon regard. L'estomac, les ovaires, le cerveau conscient et enkysté. Quand je n'aurai plus qu'une carte en main, qu'un battement de cœur à noter, mais à la perfection, bien sûr, je gagnerai la partie. Ce morceau se conclut, outre-tombe, comme il se doit, par un post-mortem en forme de post-scriptum. Post-mortem, non, même alors, réduite à rien, je n'y comprendrai rien, pas davantage. Qui ne peut avaler le tout n'en peut avaler le plus petit morceau. Il y va de l'étrange recherche d'un penser-écrire comme nager, ce qui implique d'avancer dans un élément étranger, porté et soutenu par lui, mais aussi d'être perdu et de flotter, de faire des mouvements sans finalité autre que l'équilibre des forces d'attraction contraires. Penser comme nager est à l'opposé du pensum, du poids de la pensée, sa pesée, sa et ses lourdeurs. On aurait tort d'y voir le goût pour la philosophie, le concept, le symbole. Rien n'est plus physique, plus charnel que ce délestage du corps par tranchement et ablation, et par scrutation des attributs fantômes au miroir de la photographie. Attributs fantômes, comme on le dit, des membres fantômes qui continuent à hanter les amputés. C'est ainsi qu'en face des autoportraits de Claude Cahun, ou des photomontages réalisés par Marcel Moore, on voit, on souffre, l'absence des cheveux au lieu du crâne rasé, l'écrasement des seins, l'effacement des hanches et des fesses au lieu du vaste costume androgyne dans lequel elle nage, comme on dit, l'indécidable brouille du visage grimé au lieu du masque, et par scrutation non moins des tracés du dessin de Moore, où les lignes esquissées sont interrompues par le cadre, mais non finies, et sans promesse de se rejoindre à l'infini. Ce sont des lignes à pêcher les rêves, des lignes à rêver des formes innommables. Je ne crois pas davantage qu'il serait juste de voir, dans ce désir d'une pensée effleurante, la prise à la légère de toute chose, comme une manière en somme d'élégant dandysme, ce qui serait encore une attitude philosophique. Les choix de Claude Cahun et de Marcel Moore me paraissent éminemment poétiques et quasi-mystiques ou magiques, quasi-chamaniques. Le dépouillement qu'ils exigent, l'absence au lieu, comme le dit si bien Nathanaël, pour ma part je dirais l'absentement au lieu de l'artiste chaman qu'ils opèrent, c'est la tentative de faire surgir une présence absolue. Absolue, autant dire post-mortem. Autant dire impossible. Le dispositif d'une composition dont les éléments sont entre eux en tension sublime appelle le surgissement de la présence absolue, qui fait d'une vie la vie, et du livre œuvre de vie, à la vie, à la mort. Je cite Avenon Avenue, « La vie, épouse exigeante à reconquérir au bord de chaque lit, pain quotidien, travail ou chômage. » Exigence encore cette règle si peu régulière que j'aime à citer, et que vous connaissez. Je ne voudrais coudre, piquer, tuer qu'avec l'extrême pointe. Le reste du corps, la suite, quelle perte de temps. Ne voyager qu'à la proue de soi-même. C'est dans cette optique, précisément, que procèdent les photomontages de Marcel Moore à partir des photographies de Claude Cahun pour Avenon Avenue. Tête coupée, montée en épingle, ciseaux, verres grossissants et autres loupes, coupant au plus court, cherchant au plus loin, et les séries de têtes sans corps, d'œils exorbités, de mains manipulantes, tout cela propulsé dans un espace de prestige aux distances sidérales et aux escamotages de prestidigitateurs. Tel rapport vital, c'est-à-dire extrême, d'une fragilité extrême, et comme tel déposé sur la page, tel rapport vital à l'œuvre donne lieu, au lieu du lieu, à une forme épuisante. Je veux dire, une forme qui n'a pas de forme définie ni définitive, mais qui ne se fixe pas en contour ni ne porte à identifier. Je veux dire une forme qui renonce à la forme, cependant qu'elle l'esquisse, qui s'épuise à mesure qu'elle puise à l'inépuisable fond de nos représentations, qui distance et déroute l'imaginaire lecteur, l'empêchant de se rabattre sur le tout venant des images. Car, note Claude Cahun, tendance à tout pousser à l'absolu, donc à l'absurde. Et plus avant, dans « Aveu non avenu », je cite, « L'abstrait, l'absolu, l'absurde sont un élément ductile, une matière plastique, le verbe qu'on tire à soi, que je ramène à moi. Alors, à l'aise, j'associe, dissocie et formule sans rire l'odieuse règle de ma collection d'exceptions. » Ici, « absurde » est à entendre dans son sens étymologique, discordant, hors du sens commun et de toute logique. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sens, mais plutôt qu'il y a un sens autre, lequel passe la raison, la reconnaissance, les savoirs inculqués. Nathanaël, que je salue ici, qui est mon ami en vérité, dans la cérémonie du thé que nous buvons ensemble dès que les kilomètres entre nous s'effacent, et dans les lectures et l'écriture des textes que nous partageons de près et de loin, Nathanaël a écrit le livre que vous citiez tout à l'heure, qui s'intitule « L'absence au lieu », mais qui a pour sous-titre, c'est là-dessus que je m'arrête, « Claude Cahun et le livre inouvert ». Nathanaël a plus raison qu'elle ne croit lorsqu'elle parle du « des livres » que lectrice, elle ouvre et elle ferme. Je suis encline à penser que Claude Cahun a voulu que le lecteur inouvre ses livres, en effet, et qu'elle a, pour cela, fait tout ce qu'il fallait. Non pas pour qu'il ne les ouvre pas, mais qu'il les ouvre et les survole, de texte en brèche, de brèche en faille, en blanc, en texte de nouveau. Que le lecteur, la lectrice, ait la liberté de l'aigle, un divin aplomb. Pour cela, Claude Cahun a écrit, en effet, en conséquence, elle se donne des règles, mais c'est pour l'écart qu'elle peut marquer. Et si elle pose des classes catégoriques, c'est pour déclasser aussitôt les choses et les êtres. Je la cite. « L'exception confirme la règle et l'infirme également. J'ai la manie de l'exception. Je la vois plus grande que nature. Je ne vois qu'elle. La règle ne m'intéresse qu'en fonction de ses déchets dont je fais ma pâture. Ainsi, je me déclasse exprès, tant pis pour moi. Si elle marque les genres, c'est pour brouiller les cartes. Si elle choisit un genre, c'est celui, le neutre, qui n'existe pas. Masculin, féminin, mais ça dépend des cas. Neutre est le seul genre qui me convienne toujours. S'il existait dans notre langue, on n'observerait pas ce flottement de ma pensée. Je serais pour de bon l'abeille ouvrière. » D'où la prédilection pour les interruptions, les chutes, les apories, les télescopages, et par suite, les textes brefs, les fragments détachés qui se donnent pour les déchets d'une insupportable logorée sociale. Ainsi, en une ligne et demie, cette débauche verbale, ce sont leurs messes tricolores. En deux lignes, il y a des gens dont l'unique idéal est d'avoir une vie qui puisse être mise entre toutes les mains. Et cet art poétique en une strophe. Accommodement du poète avec son infirmité. S'aveugler pour mieux voir. Faire jaillir des étincelles en frappant sur les ténèbres. Frapper sur le silence assourdissant pour s'en faire un ami malléable. Frapper la syntaxe et le rythme et le verbe un grand coup pour en tirer l'eau de mort. D'où aussi le choix des aphorismes qui surgissent comme météores, laissant entrevoir d'indicibles atteintes. Celui-ci, par exemple, « Vérifier l'addition. Saint Thomas veut que Jésus recommence le miracle, car il est de ceux qui ne sont jamais assez sûrs d'avoir fermé le robinet du gaz. » Ce sont autant de sentences qui prennent le soin d'être compréhensibles, voire éclairantes, et en même temps d'échapper à l'entendement. Ici, notamment, la trivialité du comparant, le robinet du gaz, persifle les Écritures saintes, par quoi l'incrédulité de saint Thomas, qui ne croit que ce qu'il voit, ne serait que le banal besoin de garantie d'une assurance tout risque. Et cependant, que l'on rit, quelque chose échappe. Le conte n'y est pas. L'écart est trop grand du miracle au robinet du gaz pour que l'on croie pouvoir en rester là. Et l'on soupçonne bientôt que l'écrivain est de ceux qui, mot après mot, ouvrent le robinet du gaz, jouant des fuites de sens et prennent tous les risques. Que la forme cryptée de son écriture nous enjoint, lecteur, de refaire les comptes, vérifier l'addition, afin de prendre en compte le prix poétique à payer pour atteindre, d'un coup de livre, dirait Mallarmé, d'un coup de livre à la pensée. C'est le prix de l'énigme qui est le ressort de la création artistique chez Cahun et Moa. Les dernières feuilles détachées du scrapbook explicitent la position intenable au plus grand péril du poète acrobate et de tout artiste digne de ce nom qui est, pour elle, voué à l'épreuve du sphinx. Je cite. « Vivre, en parenthèse écrire, est pour moi cette impossible acrobatie de la poésie à l'historicité, en parenthèse de l'élan vertigineux à la planche mal assurée, du tremplin qui s'effondre au trapèze à cordes apparemment pourri, fermez la parenthèse, de la réponse du sphinx, parenthèse, ou et de la mienne, parenthèse, à l'énigme qu'il, parenthèse, et où je nous propose. L'accent tonique ou dominante est sur la réponse, mais l'accent qui m'attire ou sensible de la gamme est sur l'énigme, d'énigme en énigme, indéchiffrée toujours. La phrase accidentée, tout en retrait de parenthèse, comme autant de mots dans le sens, fuit le sens, se rature et se reprend, déroute par la multiplication des alternatives, faisant ainsi ce qu'elle dit qu'elle fait, cependant qu'elle le fait, écrire l'énigme. En fait, est en jeu, dans leur art à elle, le désir de livrer le livre en personne. Le livre en personne. Le geste plusieurs ne compte pas le nombre des mains signataires. Il est innombrable, indénombrable. Le livre ne revêt pas une signature d'auteur. Livré, le livre vit de son écriture, qui est une représentation linguistique de la pensée et qui porte aussi les mystérieux accents du corps pré-linguistique. C'est donc le livre en personne, un corps constitué de mots vivants. Mais c'est aussi personne, pas une seule personne, pas quelqu'un, quelqu'une, qui en serait propriétaire, tant sont indiscernables les héritages et les flottements qui le hantent. Car dans la perspective de Cahun et de Moore, celle de l'effleurement et de la simultanéité, celle aussi de l'énigme indéchiffrée, le geste de création n'est pas sans mesurer l'énorme travail qu'il faut faire pour que l'œuvre ait l'air dégagé de toute apparence d'effort, ce qu'elle dit plus haut, que j'ai cité. Et pour cela, que l'œuvre paraisse venir de l'écriture et aller à l'écriture sans truchement ouvrier. Ainsi, l'image de la tombée de l'idée, peut-être de l'allemand Einfall, Suzanne, puisque Suzanne Marcel Moore connaissait bien cette langue, je cite, « On ne peut retenir aisément que les pensées sèchent, isolées, seules de leur espèce, qu'une idée tombe dans un domaine dense, de l'eau courante, elle est perdue. Je n'en retrouverai pas même la lettre, l'initiale. » On voit se dessiner une figure du créateur qui n'est pas seulement acrobate, mais aussi terre, paradoxalement aride et fertile, où mort et naissance s'accompagnent mutuellement. On pense aux photographies où Cahun est allongé au sol, ou à sa place un crâne de Maccabée, cependant que fleurit un bosquet d'étranges fleurs. Ou l'idée tombée, fait tombe et refleurissement tout ensemble. Se dessine aussi une figure de créateur, d'artiste, qui est un médium, traversé de flux mystérieux, que son art tient à la proue, sur les seuils, sur la frontière, attaché au poteau frontière. Un aventurier, sujet à toutes les tentations, à toutes les folies et les perditions. Tel Ulysse attaché au mât, écoutant le chant des sirènes. Car c'est bien ce mythos, cette fabula, qui est sous-jacent et transposé dans la sentence qui clôt le chapitre 6 d'Aveu non avenu. Les nuits d'orage, si l'on veut demeurer sur le pont du navire, en parenthèse cheval qui rue et cherche à nous désarçonner, il faut se faire solidement amarrer à quelques poteaux frontières. Si le livre en personne semble venir directement de l'ivresse des mots, c'est, beaucoup, du fait de ce dispositif de l'écart à la reconnaissance, où le recours aux citations suggérées, allusions, parodies, imitations, appelle un fond commun culturel qui nous parle immédiatement, mais qui est ici, aussitôt, passé à la moulinette de la mise en pièce textuelle et du photomontage. C'est donc, sous nos yeux, le livre de personnes qui se déplie, protéiforme. Et n'oublions pas que c'est aussi Ulysse qui déclare au Cyclope son nom de personne au moment de fuir. Et c'est aussi, d'une certaine façon, la photo de personne que travaille Claude Cahun. Cahun Moore ruse avec la culture, avec les biens culturels, avec les fonctions d'auteur et d'autorité. L'auteur-personne est non identifiable, sans papier, sans assignation à résidence et sans domicile fixe. De multiples voix, des points de vue, des positions contradictoires brouillent les cartes. C'est la façon qu'elles ont de tenir le passage. Car faire le passage à la lettre, dans les langues, les tracés, les images, c'est précisément ne pas passer. Et c'est façon de tenir le secret aussi. Quelque chose d'une perfection inatteignable hante ainsi l'œuvre et fait œuvre. Car n'est-ce pas précisément cela le geste de créer que de toujours travailler vers l'inatteignable ? Cézanne peignant inlassablement la montagne Sainte-Victoire ou Hokusai le mont Fuji. Pour ce rêve de perfection, Cahun trouve l'image de l'improbable noyau d'ivoire au cœur de la poussière. Je cite Aveu non avenu. Cette lame chirurgicale dont l'analyse ou la religion nous arme contre nous-mêmes rencontrera-t-elle un noyau d'ivoire ou seulement déchets, déchets, ramassis de déchets jusqu'au centre méconnaissable, poussière entraînée par le vent. La formule est belle, qui dit à la fois la force, la dureté de la corne, la clarté de sa matière, et fait entendre y voir, la voyance, la vision, la lucidité, l'intelligence. Mais surtout, il faut s'armer contre soi-même, est-il dit, notamment contre la complaisance de l'auteur psychologique, savoir se réduire et s'augmenter. C'est l'étrange algèbre de l'œuvre Cahun plus Moore. Plus d'une et moins de deux. Pas une plus une et jamais que Cahun ou que Moore. Mais plus d'une et moins de deux, faire corps singulièrement, quoique inséparé. S'abstenir pour, à, vers l'autre, qui n'est pas, qui n'est jamais l'alter ego. C'est une belle acception de l'auctor, auteur, celui qui augmente, qui s'augmente en se réduisant de l'autre. Il y a quelque chose qui me touche profondément dans ce couple d'artistes qui ne fait pas couple, ne fait pas la paire, car cette notion de couple ou de paire, c'est encore notre idéologie qui nous l'impose, ainsi que Derrida le montre bien dans La vérité en peinture, avec le tableau des souliers de Van Gogh. Pas couple donc, à mes yeux du moins. Cahun Moore, car c'est bien davantage, on l'aura compris, et c'est ce que j'essaie de montrer ici, c'est quelque chose donc qui me touche et qui est de l'ordre de la suspension du jugement entre elles, qui est comme une façon d'être entièrement et sans reste à l'œuvre. Je m'explique. Il s'agit de la dédicace de Vue et Vision, ouvrage dont les textes sont de Claude Cahun et les dessins de Marcel Moore. Lors d'une première publication, il y avait alors les seuls textes au Mercure de France de Claude Cahun, le 16 mai 1914, Claude Cahun avait alors pour pseudonyme Claude Courly. Cet écrit de jeunesse est repris en 1919 en volume aux éditions Cress avec Marcel Moore, et voici la dédicace. À Marcel Moore, je te dédie ces proses puériles afin que l'ensemble du livre t'appartienne et qu'ainsi tes dessins nous fassent pardonner mon texte. Dans ce jeu subtil d'envoi, d'appartenance et de dessaisissement et de pronoms personnels où se conjugue je, tu, nous, il faut d'abord relever, car les mots chez Cahun signifient en tout sens et pas seulement dans l'enchaînement syntaxique, relever donc ensemble le livre. Et puis, la venue du nous, bien plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Car nous n'est pas la simple addition je plus tu, mais dans la conjonction chiasmée je te, te mon, un double sens le charge et de pluriel et de singulier. Tes desseins, qu'ils nous fassent pardonner mon texte, ce qui peut s'entendre soit nous, sujets, nous pouvons d'un commun accord et mutuellement pardonner, accepter mon texte, c'est-à-dire grâce, avec, auprès de l'autre, je m'accepte, je suspends mon propre tribunal, soit nous, attribut, on nous pardonne mon texte, et c'est alors la création, l'œuvre, qui est l'œuvre nous. Or, Pascal Quignard, dans son récent ouvrage « Critique du jugement », où il engage à faire la critique de la critique et à méditer sur une critique du jugement, explicite la problématique ainsi. Je cite « Si je juge, je suis deux. Or, le fond de l'aspiration à créer, la poussée au fond de l'aspiration à créer, c'est « je ne veux pas être deux ». Créer, c'est être à sa chose, c'est être un. L'opposition entre critique et créateur est radicale, totale. Et dans cette opposition, écrire a toujours perdu. Fin de citation. Et j'ajoute ce qu'il retient de l'évangile de Jean 7, 24. Nolite judicare, judicium judicate. Ne jugez pas, jugez d'abord le jugement. Et dans Jean 8, 15, rapportant les paroles de Jésus, « Moi, je ne juge personne. Quand tu juges l'autre, il ne compte pas pour toi. Et s'il compte à tes yeux, tu ne le juges plus. » La dédicace amour, il me semble qu'elle dit cela. À deux, nous faisons un. Et nous sommes ainsi tout à notre chose, à l'ouvrage, à notre chose, le livre. Nous sommes... nous et entièrement à la création, hors de la relation autodestructrice, je me juge, et hors de la relation de censure extérieure, les autres m'interdisent, qui empêche de créer, c'est-à-dire d'être dérangeant, insoumis, corrosif. Je reprends, elle, le livre. Je m'arrêterai un moment sur la composition dessins-textes de Vues et Visions, dont je rappelle qu'ils sont publiés en 1914-1919. Lorsqu'en 1939, Claude Cahun fait un envoi de ce livre à Jacqueline Lambin-Breton, elle marque quelques réticences vis-à-vis de, je cite, « ce texte compassé, ces hypocrites appels de Courly dans la nuit ». Mais, ajoute-t-elle, « grâce à l'eau de l'air, je ne sais quel mot, quelle phrase, quelle parenthèse, quel signe de papier jauni s'ouvrira comme une fleur japonaise au cœur de l'aquarium, au centre de l'œil prodigieux de Psyché. » Or, à le lire aujourd'hui, c'est-à-dire rétrospectivement et à la lumière de toutes les œuvres de Cahun Moore, cet ouvrage, Vues et Visions, me paraît au contraire porteur d'une germination hors du commun. Il est constitué, je le rappelle, de 25 scansions, chacune composée de deux textes en regard, vis-à-vis, gauche-droite, À gauche, le texte indique 25 fois le même lieu, le croisic. À droite, en face, passent des lieux de diverses époques de l'Antiquité gréco-latine. Rome Auguste, Rome Titus, Rome Néron, Corinthe, Athènes, etc. Ces textes vis-à-vis, qu'un cadre sur trois côtés marque comme un linteau, deux montants, un portique, incrusté des dessins noirs sur blanc de Marcel Moore, ces textes ont la particularité d'être brefs, de faire le descriptif d'un paysage, d'un lieu ou d'une scénette qui présente d'infimes éléments, très peu de mouvements, pas d'événements. Car l'événement, ce qui arrive, est massivement textuel. Il s'agit d'écrire avec quasi les mêmes mots, une syntaxe quasi identique, deux moments totalement différents. Deux textes jumeaux et discordants. Texte miroir menteur, compassé, il change en fait de compas, de mesure, semant le trouble dans les calculs de haute précision grammaticale. Et plus la différence est minime, plus l'effet est dévastateur. Un bel exercice d'économie scripturale, en somme. Poussé à l'extrême, il donne le vertige, on ne sait plus ce qu'on a lu ou compris, l'œil louche et se trouve dans le strabisme à la fois. J'ai pris un exemple, Jeu de lumière, que je reparcours un petit peu avec vous. Le croisic, un printemps tardif m'alangui, couché parmi les feuilles mortes, je paraisse avec volupté. En face, Corinthe, un repos tardif m'alangui, couché parmi les coussins roux, je paraisse avec volupté. À gauche, comme pour un jeu, le vent m'effleure la figure des petites branches du tamaris. À droite, comme pour un jeu, elle m'enveloppe la tête de son voile parfumé. J'ouvre les yeux tout prêt à la réplique, mais le vent, plus malin que moi, écarte la branche que je voulais saisir pour la châtier de son audace. Elle est trop loin de moi, et pour allonger la main, je suis bien trop paresseux. À droite, j'ouvre les yeux tout prêt à la réplique, plus habile que moi, elle écarte sa robe que je voulais saisir pour la châtier de son audace. Elle est trop loin de moi, et pour allonger la main, je suis bien trop paresseux. J'attends, mais rien ne bouge, et pour charmer mes loisirs, j'observe l'océan qui paraît mauve à travers la fine gaze verte du tamaris. J'attends, mais elle reste immobile, et pour charmer mes loisirs, j'observe ses yeux qui paraissent mauves à travers la fine gaze dont elle les voile pour me taquiner. Et la dernière phrase devient absolument identique avec pour seule différence un S à mauve. Sous l'apparence néoclassique, le glissement généralisé des éléments ici et des formes produit un double texte effervescent, donc d'un côté un plaisir sensuel naturel d'un branchage, de l'autre côté le plaisir érotique masculin-féminin. Donc ce texte effervescent est à la fois à effet bavard par les répétitions et à effet buvard par le décalque qu'il provoque. Cependant que le même effet de tracé réversible se joue au plan du dessin de Moore, où tout est allusif, inachevé, effleuré, figuratif, mais peu reconnaissable et encore moins nommable. Tout le contraire de l'illustration. Les traits du dessin et les traits d'écriture semblent ainsi remonter à une antique origine commune, celle des cavernes et des empreintes organiques déposées aux parois. Détaché, éloigné des significations, le texte dessin redevient empreinte première, celle qui sur la rétine fait le jeu de l'ombre et de la lumière, avant que l'esprit sache qui ou quoi des vues et visions. Avant toute reconnaissance, nomination, jugement, l'impression ouvrière d'elle le livre. Elle le livre jusque dans l'amour, la poésie et la défense de la cause prolétarienne. On aura reconnu ici que je cite pastiche le sous-titre de « Les Paris sont ouverts » publié chez Corti en 1934, dont la visée est ainsi libellé en page de faux titre, je reprends l'exact libellé. Quel parti prenez-vous pour en finir avec l'exploitation de l'homme par l'homme, avec votre propre dilemme, exploité-exploiteur. Exploité-exploiteur jusque dans l'amour, la poésie et la défense de la cause prolétarienne. Contre l'idée répandue que la poésie, l'activité poétique, serait dénuée d'utilité pratique, Claude Cahun écrit ce pamphlet en jouant sur les titres courants. Que voici, la poésie garde son secret, la poésie livre son secret, elle le livre, elle le garde, et parfois écrit tout attaché, livre son secret et garde son secret, ce qui donne des coupes tout à fait intéressantes. Déclarant la poésie activité révolutionnaire, Cahun prône alors l'action indirecte. Je cite, « Il s'agit de mettre en marche et de laisser en panne. » Et de citer Lautréamont, Marx, Rimbaud et les surréalistes, dont la poésie est celle qui « délivre l'homme », dit-elle. Où l'on retrouve le mouvement du duel et du duo, de la division et du contrepoint. Je cite, « Ça oblige le lecteur à faire tout seul un pas de plus qu'il ne voudrait. On a soigneusement bloqué toutes les sorties, mais la porte d'entrée, on lui laisse le soin de l'ouvrir. Laissez à désirer, dit Breton. » Fin de citation. Leur foi en les ressources révolutionnaires de la poésie, Cahun et Moore auront bientôt à la mettre à l'épreuve de la réalité. Je vais revenir un peu pour finir sur leur activité de résistance poétique-politique contre les nazis à Jersey. D'abord, pour souligner que Claude Cahun, contrairement aux affirmations que l'on trouve parfois ça et là, d'abandon de l'écriture au profit de la photographie, Claude Cahun, me semble-t-il, n'a jamais cessé d'écrire. Seulement, elle emploie une autre forme, celle de la lettre-récit et celle du journal, scrapbook, confidence au miroir, celle du travail journalier d'écrire. Car les lettres à Gaston Ferdière, lettres à Paul Lévy, lettres à Charles-Henri Barbier et peut-être d'autres correspondances encore inaccessibles comme celle avec Breton par exemple, ces lettres sont de véritables morceaux de littérature. Ensuite, il convient de souligner que c'est dans ses lettres-récits que Cahun évoque aussi Suzanne Marcel Moore, dans son caractère singulier et dans leur complicité. L'on découvre alors, non sans étonnement, que celle que l'on pensait dans l'ombre est la plus intransigeante, la plus intraitable, bien plus intraitable que Cahun, elle, au premier plan. Ainsi, à Gaston Ferdière, à l'occasion du récit de l'évacuation de Jersey de ses habitants avant l'occupation nazie, on apprend que « Je savais combien eût été vain de vouloir faire fuir Suzanne. Ce n'est pas dans sa nature. » Plus loin, c'est la lucidité de Suzanne qui transparaît. « Chaque fois que j'avais exprimé mon désir de bouger, Suzanne avait répondu raisonnablement « Tu ne peux servir à rien. Tu n'as aucune qualification. » Tu te vois en infirmière? Tu te vois conduisant un camion? Tu ne serais dans tout cela qu'une charge, qu'un encombrement. » Plus loin encore, cette citation, Suzanne est plus indifférente, mais plus volontiers insociable envers tous. Lors de l'occupation possible de la maison, Claude Cahun est prêt à transiger. En tablant sur une froideur et une stricte politesse à l'égard de l'occupant. « Mais Suzanne, » dit-elle, et c'est l'occasion d'un très beau portrait de l'autre en figure de l'absolu jusqu'au sacrifice. Suzanne serait-elle comme le noyau d'ivoire ? Je cite, « Mais Suzanne, ne risque-t-elle pas d'avoir une attitude d'une intransigeance telle que tout sera sacrifié aussitôt pour rien, pour une peccadille matérielle ?» qui ne mériterait qu'une protestation ferme ou une insulte verbale qu'il faudrait se borner à mépriser en attendant mieux. Parler à Suzanne de diplomatie, de ruse, c'était me rabaisser à ses yeux. » Fin de citation. Et chaque fois, c'est moins de deux et plus d'une, car il n'y a de décision, d'action, d'œuvre qu'ensemble et après négociation. Quant à l'entraînement au tir au pistolet, par exemple, et l'on apprend que Suzanne s'est chargée, elle s'est tirée, mais pas Claude, il se termine dans l'harmonie d'une charmante promenade grâce à Suzanne, promenade fleurie au milieu des églantines naines, des masses de bruyère et des aubépines roses. Fin de citation. Reste que c'est en toute poésie qu'elles risquent leur vie, incarcérées, condamnées à mort. L'action de résistance consiste à démoraliser les soldats allemands à coups de poèmes et de textes. Claude rédige des bulletins de nouvelles en anglais, des manifestes, des slogans, de courts dialogues entre soldats en français. Suzanne traduit le tout en allemand. Ou bien encore, elles exécutent sous rouleau de papier hygiénique des dessins typographiques. Ainsi, l'un d'eux représentait, je cite, « avec une simplicité enfantine, la route du soldat jonchée de tombées, bordée de croix et ne menant nulle part ». Incarcérée et condamnée à mort, Suzanne est trop fière pour signer son recours en grâce. Et Claude, qui sait qu'elle sera objet de son mépris si elle cède et si elle signe, y renonce également. C'est dans la lettre à Lévy. Il y a un mot, finalement, pour dire ce qui est au fondement de « la vie de la création d'elle, le livre ». Un mot que l'on emploie guère à leur égard, le mot « amour ». Leur secret, c'est un amour sans condition, c'est-à-dire qui ne juge pas, qui ne compte pas, qui ne domine pas, qui génère une énergie extraordinaire de résidence, de résistance et d'indiscipline. Œuvre-vie confondue de deux âmes sœurs. Je cite ce passage dans « Aveu non avenu ». Douce la minute où nos deux têtes, ah, que nos cheveux s'en mêlent indébrouillablement, nos deux têtes se penchèrent sur une photographie. Portrait de l'un ou de l'autre, nos deux narcissismes s'y noyant, c'était l'impossible réalisé en un miroir magique. L'échange, la superposition, la fusion des désirs. L'unité de l'image obtenue par l'amitié étroite des deux corps, au besoin qu'ils envoient leurs âmes au diable. Non pas leurs âmes, mais ce qui leur en sert, non ces sœurs solennelles, mais cette conscience quotidienne. Esprit, bonheur, stabilité, amour, bien fondé, souvenir, habitude, avenir, devenir. Cette énergie amoureuse a la capacité de ne pas oublier que les mots, c'est la chair du monde. Ne pas oublier que, je cite, « le moindre d'entre nous est acteur isolé du sol par le cothurne historique ». Ne pas oublier qu'on partage un manque de confiance en soi. Je cite, « de confiance spontanée sans discussion ». Elles auront passé la vie de l'œuvre et la vie de la vie à la discussion, à la recherche de la forme miracle qui ferait venir la beauté du monde. Et dans cette marche quotidienne, à la vie, à la mort, il est émouvant de constater, sur les photos de Jersey, que Claude Cahun et Marcel Moore ont fini par physiquement se ressembler au miroir de l'œuvre. Tout au travail de « créer », c'est-à-dire, comme l'écrit Pascal Quignard, de se perdre dans leurs nuages gris ou noirs, leur brume, leur souffle, leur ombre, leurs choses, leurs rêves, leur invisibilité. Elle, le livre, appelle cela « exister autrement ». Je vous remercie.